France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, racisme, antisémitisme, tolérance, où en est la France ? Question posée à l'occasion de la sortie du dernier rapport de la CNDCH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un rapport selon lequel la tolérance a progressé dans l'opinion l'an dernier, malgré les attentats, malgré la crise des migrants. Alors question, comment la CNDCH fait-elle pour mesurer l'indice de tolérance de la population et qu'est-ce que c'est que cet indice ? Pour en parler, à nos côtés, Magali Lafourcade, la secrétaire générale de la Commission. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Michel Tubiana. Bonsoir.
Bonsoir.
Président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme qui connaît donc le sujet lui aussi sur le bout des doigts. Pour les interroger ou simplement pour témoigner, vous avez Twitter, vous avez franceinter.fr avec le mot dièse Telson. Vous avez aussi le standard 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard où nous attend Élise Bocherel, qui est enseignante en Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, vous êtes en ligne parce que vous êtes professeur de lettres dans un lycée professionnel à Épinay-sur-Seine et que vous avez très récemment tenu à alerter la presse et le grand public suite à des sorties organisées avec vos élèves. Vous avez lancé un appel contre les discriminations parce que vous avez constaté des discriminations lors des sorties scolaires avec vos élèves, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ça fait 4 ans bientôt que je suis enseignante et quasiment à chaque sortie scolaire, malheureusement, nous sommes confrontés à des discriminations, donc c'est des remarques à la fois dans les musées, le métro, le train, etc. Et il y a 2 ans, j'ai eu un premier contrôle de police en pleine sortie scolaire et le 1er mars dernier, 3 de mes élèves à 2 points différents de la gare du Nord se sont fait contrôler. On revenait d'un séjour à Bruxelles.
Et ça, c'est une réalité que vous n'aviez pas perçue avant d'emmener vos élèves de Seine-Saint-Denis en sortie ?
Je l'ai toujours perçue, mais si vous voulez, c'est presque devenu normal, malheureusement. Et il est vrai que depuis que j'ai lancé cet appel, j'ai un certain nombre d'enseignants, de témoignages d'enseignants qui me disent qu'en effet, eux aussi connaissent ce genre de choses, mais ne le remontent pas forcément à leur direction, parce que c'est quasiment à chaque sortie scolaire.
Et les enfants, eux, comment le vivent-ils ?
Ils ont l'habitude. On voit qu'ils ont l'habitude et moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est à nous, du coup, de les défendre à chaque fois, de demander aux personnes extérieures de leur parler correctement. Alors, heureusement, il y a des personnes très sympas aussi, hein, c'est pas non plus. Mais c'est assez difficile à vivre. On doit gérer 2 choses. D'une part, la sortie d'un groupe d'adolescents classique. Et puis d'autre part, on doit gérer les réactions extérieures.
Et alors justement, outre les contrôles d'identité, qu'est-ce que vous entendez comme remarque lors de ces sorties ?
On va souffler, on va venir, on leur parle n'importe comment en fait. Et on n'essaie même pas de savoir s'il y a un enseignant qui les encadre, alors qu'on voit bien qu'il y a un groupe scolaire. J'ai été dans un musée par exemple, il y avait pourtant un autre groupe de lycéens qui n'étaient pas des quartiers populaires, ça se voyait. Et alors je ne sais pas si c'était la responsable, mais elle leur parlait vraiment n'importe comment, sans même avoir pensé. Elle a même pas demandé où était le professeur responsable du groupe. Non, elle leur a vraiment parlé n'importe comment.
Merci beaucoup, Élise Bocherel, pour ce témoignage. Merci de nous avoir expliqué tout ça sur l'antenne de France Inter. On suivra évidemment ce que donne cet appel que vous avez lancé. Comment réagissez-vous ? Qui veut peut-être commencer ? Michel Tubiana, Magali Lafourcade. Sur ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment du quotidien, ce genre de témoignage ? À la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que ça remonte chez vous ?
C'est du quotidien, mais c'est du quotidien sur certains territoires. Vous ne trouverez pas ça sur une sortie de classe du 16e arrondissement de Paris, bien évidemment, ni de Neuilly-sur-Seine. C'est-à-dire que certains territoires concentrent à la fois un certain nombre de difficultés, un certain type de population, et donc un certain nombre d'attitudes. Et à partir de là, lorsque ces personnes font des sorties scolaires, cherchent un travail ou autre, elles vont se trouver confrontées à une série de remarques désobligeantes, d'abus des pouvoirs publics ou des forces de l'ordre, ou tout simplement d'une incapacité à bénéficier d'un traitement normal parce que leur aspect, leur provenance, le lieu où elles vivent, renvoie à un certain nombre de stéréotypes dont on use et on abuse.
Magali Lafourcade, vous qui êtes secrétaire générale de la CNDCH, vous faites état d'un indice de tolérance à la hausse dans votre rapport annuel. Visiblement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, cet indice de tolérance à la hausse.
Effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Michel Tubiana concernant les contrôles aux faciès. Ces attitudes-là ne concernent bien sûr pas toute la population française. Donc beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre ce que vivent les personnes qui sont de manière très répétée contrôlées. Ce qui est absolument déplorable, c'est que ça devienne une habitude pour ces jeunes. C'est ce que Madame dit dans son témoignage, et ça nous fait mal à tous. Hein. Il faut quand même rappeler que le gouvernement qui a tendance à manier la politique de l'autruche concernant l'existence du phénomène vient d'être condamné pour faute lourde, puisque
pour des contrôles abusifs.
Pour des contrôles abusifs discriminatoires. Donc on est bien dans le registre du contrôle aux faciès, et le fait d'avoir une couleur de peau un peu foncée ne présume pas d'un comportement délinquant d'une potentielle extranéité qui justifierait peut-être une infraction à la législation sur les étrangers. Donc il faudra aussi s'interroger sur cette pratique-là pour vérifier que le contrôle d'identité en général a une quelconque utilité. Et des études ont montré que beaucoup de contrôles étaient complètement inutiles, puisque dans certaines études, notamment dans l'Hérault, sur plus de 2500 contrôles, il n'y avait eu que 4% d'interpellation qui avait suivi. Donc c'est le remède universel, le remède de base de la police de sécurité. Et pourtant, on s'aperçoit que ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Donc déjà, il faut interroger cette pratique-là qui est quand même très dégradante pour les gens qui sont concernés. Et sinon, donc pour l'indice de tolérance, effectivement, ça concerne plutôt l'ouverture de la société en elle-même.
Vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cet indice de tolérance, indice longitudinal de tolérance?
Tout à fait. Donc c'est un indice qui est scientifiquement très robuste, qui existe depuis 1990, hein, et qui nous permet d'avoir une cartographie de l'état de la tolérance en France.
Donc, vous partez de quoi? D'une enquête de terrain?
Une enquête de terrain qui est menée en face à face depuis donc plus de 26 ans et qui permet de poser un nombre de questions très important. Avec 69 items agrégés, on pose à chaque fois, trois fois sous des angles différents, la même question pour pouvoir avoir quelque chose de très fidèle, une image très fidèle de l'état du préjugé de la personne. Et on permet comme ça d'identifier l'indice global de tolérance, donc ça monte ou ça baisse selon les années. En ce moment, c'est vraiment une année faste, puisque donc, la tolérance remonte très nettement en France depuis quelques années.
Donc en 2016, ça remonte par rapport à 2015,
voilà,
qui avait été une année marquée quand même par de nombreux attentats, mais bon, il y en a eu aussi en 2016.
Exactement, donc ça remonte en fait depuis 2014, c'était un point bas, et après les attentats de 2015, on a vu déjà une augmentation. Il y avait l'esprit du 11 janvier, souvenez-vous, ce réflexe fraternel où les gens se sont identifiés, je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis français, et donc il y avait ce réflexe très fort que nous, on mesure comme étant encore actuel. Et on mesure aussi groupe par groupe, c'est-à-dire les juifs, les asiatiques, les noirs, les musulmans, les maghrébins et les roms. Les roms souffrent toujours d'une image extrêmement déplorable dans la société.
Alors oui, j'ai vu ça comme conclusion de votre rapport. Les juifs, les noirs, les asiatiques restent les minorités les mieux acceptées, les musulmans les moins acceptés, à l'exception donc des roms de loin les plus rejetés. Michel Tubiana, cet indice de tolérance, c'est quelque chose d'important pour mesurer le degré de racisme?
Oui, surtout en raison du background. Il faut, comme je vous l'ai dit, 26 ans d'antériorité, ça permet de mieux cerner la question, et la rigueur de l'enquête est extrêmement intéressante. Mais, comme elle vient de vous le dire aussi, ça ne définit que des tendances à l'intérieur de la société. Ça ne parle pas de ces points chauds qu'on évoquait tout à l'heure, le 93 ou ailleurs, où là va se trouver cumulée toute une série de situations et de discriminations qu'elles entraînent, qui vont renforcer une attitude de ghetto, une forme de ghettoisation, d'enfermement, avec les enchaînements qui vont avec. Et le contrôle aux faciès est non seulement dégradant pour les personnes, mais dites-vous bien, qu'est-ce que ça représente après, quand un enseignant vient dire à ses élèves les principes de la République? Les principes de la République, pour eux, c'est les discriminations dont ils sont victimes. C'est ça qu'ils constatent concrètement. Et ça, c'est terrible pour la République.
Mais j'insiste sur cet indice. En quoi est-ce que c'est important d'avoir un tel indice? Parce qu'on pourrait se dire, il y a les chiffres des plaintes, de la police, etc. C'est pas forcément fiable.
Ces chiffres ne rendent pas compte. Ne peuvent pas d'ailleurs rendre compte. Ne serait-ce que parce que tout un tas de victimes ne se manifeste pas. Vous savez, on le sait très bien à propos des agressions sexuelles sur les femmes, etc., etc. Les chiffres de la police, sans contester leur honnêteté, ne peuvent pas rendre compte de la réalité.
La proportion, Magali Lafourcade, de ce qui effectivement remonte jusqu'aux plaintes.
Oui, alors en fait, tout à fait, on a ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire la criminalité effectivement commise, mais qui n'est jamais signalée ou déclarée au service enquêteur et qui n'est pas du coup remontée à la justice. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur ont quand même quelques vertus, puisqu'ils sont comptabilisés de manière scientifique avec les normes de l'INSEE, et donc on peut voir les évolutions d'une année sur l'autre. Mais donc, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est cette proportion de gens qui ne vont pas déposer plainte et qui donc n'ont pas de réponse de justice à ce qu'ils ont pu vivre, qui est souvent très traumatisant parce qu'on touche à l'identité. Mais le sondage, lui, il porte sur des préjugés. Alors, bien sûr, pour commettre des actes racistes, il faut avoir des forts préjugés. Et tous les gens qui ont des préjugés, fort heureusement, ne commettent pas des actes racistes. Et donc, les préjugés, on peut les capter par l'indice longitudinal de tolérance. Et cette année, notre innovation, puisqu'on a vu qu'il y avait énormément de sondages qui avaient fait complètement flop ces derniers temps. On a eu le Brexit, on a eu Trump, on a même eu les résultats du premier tour de la primaire de la droite. Et en fait, on s'est dit, on va faire notre sondage en face à face, comme on sait le faire depuis plus de 25 ans. Et ensuite, on va faire un sondage online. Donc, le sondage qui est le sondage passé pour le Brexit, etc. Donc, sur cette méthode-là, pour voir les différences. Et on a même fait, on est même allé encore plus loin avec une expérimentation sur les émotions montrant des images et voir comment les gens réagissaient avec leurs affects, puisque dans ces affaires de racisme, il y a beaucoup d'émotions.
On repart au standard de France Inter, c'est Patrice qui est en ligne cette fois avec nous. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
J'avoue que j'ignore d'où vous nous appelez, mais c'est pas un souci.
De la Meuse.
Eh bien parfait, c'est à vous.
Voilà. Eh bien écoutez, selon les observatoires appropriés, j'ai entendu dire qu'il y avait eu moins d'actes antiracistes en 2016, ce qui est une bonne surprise. Mais je me demande dans le même temps si on n'assiste pas à une montée de la xénophobie. D'abord, comment mesure-t-on cette montée des xénophobies, essentiellement depuis la venue des migrants? Puisque vous parlez de tolérance, il me semble qu'il y a quand même deux degrés majeurs. C'est la tolérance vis-à-vis des étrangers qui sont présents, mais aussi ceux qui sont susceptibles de venir. Et je suis un peu écœuré de la tolérance des pays européens en ce moment, que je trouve lamentable par rapport à des pays bien moins riches que nous, comme le Liban, la Jordanie, n'en déplaise à Mme Le Pen, où on accepte d'avoir le tiers de sa population. Et je crois qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour aider à survivre ces pauvres gens qui ne demandent qu'à de l'aide.
Merci beaucoup, Patrice, de nous avoir appelé. Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
Écoutez, il faut remonter dans le temps. Cela fait plus de 30 ans maintenant que, à un degré ou un autre, à quelques années près en moins, l'étranger est présenté comme étant un danger, un fraudeur, etc. Faut pas s'étonner dans ces conditions que la tolérance, le regard que nos concitoyens portent sur celui-là, eh ben, ce soit pas un regard qui soit toujours très fraternel en même temps. Et c'est quand même satisfaisant, on voit bien les mobilisations de la société civile, les accueils des uns ou des autres. Mais lorsque le gouvernement français, et j'ai vraiment presque de la peine à le dire, est en train de mégoter sur quelques milliers d'étrangers, alors que les millions, ils sont au Liban,
en Jordanie,
ben, on se dit que les choses marchent un peu sur la tête et que, à partir de là, la xénophobie en est renforcée.
Magali Lafourcade.
Ce qu'on peut dire quand même, c'est que par rapport à la xénophobie, donc cette hostilité vis-à-vis de l'étranger, le remplacement des générations, des cohortes, est plutôt favorable à une ouverture d'esprit, puisque donc on sait que la tolérance est d'autant plus portée quand on a un niveau de diplôme élevé. Or, les nouvelles générations sont très diplômées et en plus, elles ont de plus en plus d'expériences de socialisation transnationale, c'est-à-dire travail à l'étranger ou études à l'étranger, ou tout simplement travail ou études en France avec des étrangers. Et plus vous êtes en contact avec l'étranger, c'est ça, toucher l'étranger, et vous êtes touché par lui. Et donc, permet d'avoir cette ouverture. Donc, c'est peut-être aussi ça qui explique les bons résultats en matière de xénophobie sur l'indice de tolérance, puisque l'enquête a montré qu'il y avait une meilleure ouverture, même si, bien sûr, dans le débat public, et c'est peut-être aussi le problème du cadrage politique et médiatique sur les migrants qui est là en question, moins le sentiment vraiment des gens, le sentiment profond des gens.
Alors, j'ai noté aussi dans votre rapport que cet indice de tolérance était sensible à la couleur politique du gouvernement. Vous écrivez, si le gouvernement est de droite, l'indice tend par réaction à s'orienter vers plus de tolérance et inversement vers plus d'intolérance s'il est de gauche. C'est vrai ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle, de point de vue scientifique, l'effet thermostatique. Donc derrière ce vocable un petit peu barbare, c'est le fait que quand on a un gouvernement de gauche, on se dit qu'il est réputé porter des valeurs humanistes, hein, et donc tous ceux qui auraient un réflexe pour pouvoir porter ces valeurs-là sont moins audibles, hein, du reste de la société, et donc peuvent moins faire leur boulot en quelque sorte que quand on a un gouvernement de droite ou qui est dans l'imaginaire collectif. Censé être moins sensible ou moins porté sur les valeurs humanistes.
Pourtant, on avait bien dit à l'époque, quand il y avait le débat sur l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy, que ça libérait une parole raciste. Mmh. Donc ça, c'est pas vrai.
Bah, surtout, on peut dire que les contre-feux, c'est-à-dire les associations de défense des droits de l'homme comme la LDH ou les institutions comme la CNCDH, sont très audibles, hein, dans ces moments-là. Et là aussi, c'est un problème de cadrage politique et médiatique. On nous entend plus. Et donc, on est plus fort pour pouvoir réactiver le noyau dur des gens qui sont tolérants face à une politique qui peut être considérée comme intolérante.
Michel Tubiana, oui. Avec quand même des limites, on le voit bien à propos des Roms. Le martèlement du discours contre les Roms, parfois contre la moindre des vérités, qu'il émane de M. Valls, qu'il émane de la droite ou de telle maire, finit par, comme un raz-de-marée, emporter la digue. Et ça donne les résultats que vous mentionniez à propos des Roms, catégorie la plus discriminée.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Et c'est Jacques qui nous appelle. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Vous êtes dans le Nord.
Oui.
Bienvenue à vous.
Bon, moi je voulais faire part d'une espérance.
Ah, ça commence bien.
Bah oui,
on est content.
Parce que j'ai eu la chance de faire la guerre d'Algérie. Je dis chance entre guillemets parce que ça m'a permis justement d'être confronté à des gens différents. Et j'en suis revenu, ça a provoqué que ma vie a été entièrement dirigée contre le fascisme et vers l'accueil, notamment dans ma vie d'instituteur. Alors moi je pense que c'est pas la généralité des gens de ma génération. Mais je pense que les jeunes qui partagent à l'école les études, le sport, les jeux et plus si affinité, ben, ne pensent pas vraiment à être racistes. Et je le vois avec bonheur dans l'attitude de mes petits-enfants.
Voilà, donc c'est une, pour vous les choses évoluent dans le bon sens.
Ah, moi je pense que les choses évoluent dans le bon sens et que c'est la rencontre avec l'autre qui nous enrichit. Et c'est l'ignorance de l'autre qui nous rend racistes et qui nous fait nous inquiéter d'une manière irrationnelle.
Eh bien, un grand merci Jacques pour ce témoignage. Qui souhaite réagir, Magali Lafourcade?
Oui, ça illustre, c'est un très beau témoignage qui illustre tout à fait donc non seulement le fait que les nouvelles générations sont de plus en plus ouvertes et en second lieu que plus on a de contact avec des personnes de cultures différentes et plus on est tolérant soi-même et qu'on diffuse autour de soi puisque donc chacun est messager, est un intermédiaire vis-à-vis des autres et donc on diffuse cette tolérance.
Michel Tubiana.
Encore faut-il que le discours public, et notamment ceux des responsables publics et politiques, ne soit pas un discours qui finisse par cautionner les pratiques d'exclusion et discriminatoires. Je crois que rien n'a été pire pour le mois d'août que nous avons vécu, que ce débat absolument surréaliste auquel seul le Conseil d'État a réussi à mettre fin. Sur le burkini, vous n'imaginez pas le ridicule dont la France a été l'objet dans toute la presse internationale. Mais surtout, qu'est-ce que ça dénotait ? En dehors du fait qu'on peut avoir la vie que l'on veut sur le burkini, bien évidemment, ça dénotait de la part des maires qui ont pris ces arrêtés une forme d'exploitation et de discours public qui est un discours officiellement discriminant. Et lorsque l'on se met à considérer que publiquement, contre la loi, la discrimination est au fond quelque chose de légitime, là on commence à manipuler des moyens très dangereux. On voit très bien aujourd'hui, dans une partie de l'Est de l'Europe, le discours qui est tenu, le sort qui est réservé. Et si on peut avoir une crainte, c'est que ce discours déteigne.
Nous repartons au standard et cette fois c'est Sadok qui nous appelle de l'Ain. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter.
Je vous en prie. Et voilà la première des choses que je peux vous dire. Nous, il y a 30 ans ici à Bourg-en-Bresse, on s'est posé la question comment mieux vivre ensemble entre associations françaises d'origine étrangère. Et nous avons créé un groupement associatif qui s'appelle Impact. Un comme le département, apostrophe, pacte avec un E à la fin. Nous avons commencé avec une vingtaine d'associations. Et chaque année, nous avons 10, 15, 12 en fonction, 5 associations en fonction du temps et des gens.
Et pourquoi vous avez monté cette association ?
Alors notre objectif, c'était d'abord, il y a 30 ans, c'est comment d'abord mieux nous connaître nous-mêmes, puisque nous avons le même but objectif qui est un but culturel.
Vous, vous êtes d'origine étrangère, Sadok ?
Je suis d'origine algérienne, mes parents d'origine algérienne, parce que moi j'avais 6 ans et mon papa était venu de la France, l'a fait venir en 46, imaginez.
Et vous pensez que les choses ont évolué depuis ?
Pratiquement pas. Parce qu'on essaye, on essaye, on essaye. Ben, quand j'ai appelé, quand j'ai entendu tout ça, je veux bien parler de la tolérance, je veux bien tolérer, ça fait toute ma vie, puisque je suis tombé dans la marmite associative dès l'âge de 18 ans, et à Lyon, on a ouvert les premiers cours d'alphabétisation, quand il y a eu les premières MJC, les premiers centres sociaux qui ont commencé à s'ouvrir. Donc bon, j'ai vécu que là-dedans tout le temps. Voilà, donc il y a un moment donné, je dis la tolérance, ça va à un moment donné, on pète les plombs, quoi.
Vous pensez qu'il y a toujours des préjugés ?
Le préjugé, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai appelé en disant que, voilà, j'ai 75 ans, je suis à la retraite, je me suis occupé de bébés, de personnes âgées, d'handicapés, tout en travaillant à l'usine et dans le bâtiment. Et grâce à l'aide, justement, au début, quand il y a eu ces centres sociaux qui commençaient à naître, enfin, des gens qui ont pris conscience des cités de transit à Lyon, à l'époque où, avant de construire les Minguettes, voilà, donc on a commencé à créer, justement, ces centres sociaux, des centres aérés, et donc, peu à peu, moi, je travaillais dans l'usine et dans le bâtiment, et donc, j'ai fait des petits remplacements comme ça, je suis devenu éducateur, j'ai terminé ma carrière pendant 18 ans dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Voilà. Merci beaucoup.
Et je continue à aider les gens dans la rue, et j'entends tous les jours autour de moi, oui, parce que bon, quand il y a une personne âgée qui ne comprend pas bien le français, je lui parle en arabe pour mieux saisir ce qu'elle demande. Et pour l'aider mieux, au mieux, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Sadok.
Et d'autre part, voilà, donc à partir de là, j'entends toujours autour de moi dire, et même pas en nous regardant dans les yeux, oui, ici on est en France, parler en français. Mais alors que tous les autres qui parlent étranger autour de nous, on leur dit jamais rien. Parce que nous sommes des Nord-Africains.
Voilà, et pour vous, c'est du racisme.
Oui, absolument, oui. Voilà.
Eh ben merci beaucoup pour votre témoignage, Sadok. Qui souhaite réagir, Magali Lafourcade ?
Oui, alors par rapport aux préjugés, donc de toute façon effectivement, quand on notre indice, donc il montre vraiment une période très très favorable, puisque on est presque au niveau le plus haut depuis la création de l'indice, on est quasiment au niveau de 2009 qui avait été le point le plus haut en matière de tolérance en France. Nous sommes quand même qu'à 65%. Donc si tout le monde donnait la réponse toujours la plus tolérante, on serait à 100%. Voilà. Et si personne ne donnait cette réponse tolérante, toujours la période réponse raciste, on serait à zéro. Donc c'est vraiment, il faut relativiser un peu cette échelle-là pour dire que 65%, c'est quand même pas 100%. Par ailleurs, ce qu'on peut quand même constater, c'est que dans les préjugés, ceci varie, puisque on remarque qu'il y a une baisse très très significative du racisme biologique, c'est-à-dire celui fondé sur la croyance qu'il existerait
des races différentes
qui sont hiérarchisables. Alors que le racisme qu'on voit aujourd'hui, qu'on évalue davantage, c'est le racisme différentialiste qui dit « moi j'ai rien contre ces personnes-là, comme groupe, mais j'ai un problème avec leur culture, avec leur mode de leurs habitudes et leur façon de vivre ». Et c'est sur celui-là qu'aujourd'hui il est très important de travailler.
Effectivement, on repart au standard, c'est Benjamin qui nous appelle de Saint-Ouen.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir. Je vous appelle parce que, à titre liminaire, je voudrais quand même attirer l'attention sur Madame Bocherel, qui n'est pas que enseignante en Seine-Saint-Denis, puisqu'elle était aussi candidate du Parti Socialiste à diverses élections. Mais bon, passons.
Mais bon, ça n'empêche pas qu'elle fasse son travail d'enseignante et qu'elle puisse signaler ce genre de discrimination.
Oui, mais elle était quand même, c'est quand même une militante, plus qu'une militante, elle a été candidate à diverses élections. Bon, passons. Et moi, en Seine-Saint-Denis, je constate, pour y vivre depuis 43 ans, qu'il y a un raidissement, une apparition quand même assez importante d'antisémitisme, qui n'avait pas dans mes jeunes années, et qui n'est pas un antisémitisme habituel de l'extrême droite française, qui est un antisémitisme issu de la communauté, puisqu'il faut parler de communauté ou de la part maghrébine de la Seine-Saint-Denis, qui consiste à se traiter de sale juif, t'es qu'un sale juif, et ça, je l'entends assez régulièrement. Moi, je ne suis pas juif, mais je l'entends régulièrement. Et l'insulte sale juif est une insulte très très répandue aujourd'hui. Et elle vient de gens qui assimilent la lutte israélo-palestinienne et qui l'importent en France. Et c'est extrêmement effrayant. Et c'est extrêmement effrayant parce que c'est plus l'antisémitisme d'extrême droite tel qu'on se l'imaginait. Mais c'est un antisémitisme de banlieue qui se répand mais à la vitesse grand V et qui est largement sous-estimé. Et d'autre part, c'est vraiment quelque chose qui est effrayant et qui s'installe dans la culture en banlieue.
Merci.
Et dont on ne parle pas beaucoup.
Merci Benjamin pour ce témoignage. Qui souhaite réagir, Michel Tuviana?
Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a des manifestations d'antisémitisme dans les banlieues, dans un certain nombre de quartiers. Alors, en distinguer les raisons devient un tout petit peu plus compliqué. Certes, le conflit israélo-palestinien, mais aussi d'autres dimensions sociales, historiques. Et puis là aussi, le discours ambiant pèse. Lorsque quelqu'un qui est présenté, et qui est certainement un grand intellectuel, parle de l'antisémitisme atavique et naturel des Arabes, on se dit qu'il y a quand même un problème, à tout le moins, de formulation. Alors je crois pas qu'on ait intérêt à cacher cela. En même temps, est-ce qu'on peut le traiter de la même manière qu'on traite l'antisémitisme ailleurs? Il y a une espèce de focalisation qui consiste à dire « Ah, pour parler un peu le langage que nous entendons, « Ah, dans les banlieues, avec les Maghrébins, il y a l'antisémitisme, voilà. » Ben oui, il y a des manifestations d'antisémitisme. Il y a des manifestations d'antisémitisme ailleurs. Traitons-les exactement la même manière. Et en tout cas, s'il y a un point sur lequel je suis totalement d'accord avec votre auditeur, c'est sortons de là le débat israélo-palestinien. Mais que tout le monde le sorte de là, que ce soit ceux qui s'identifient aux Palestiniens ou ceux qui identifient à tort la totalité des Juifs à l'État d'Israël.
Magali Lafourcade, dans votre rapport, il est question justement de cet antisémitisme. Vous dites une nouvelle forme de judéophobie.
Tout à fait. Donc on a constaté qu'il y avait une persistance des vieux préjugés antisémites qui ont traditionnellement lié les Juifs à l'argent, au pouvoir, en reprochant que c'était une communauté qui était un groupe à part, donc il y aurait un communautarisme, un attachement à Israël. Et on a constaté également parmi donc les donc dans le sondage et donc dans l'attitude des personnes qui sont intolérantes, donc qui donnent la réponse raciste ou parfois raciste, qu'il y avait cette nouvelle judéophobie qui est donc distincte du vieil antisémitisme et qui est structurée autour de l'image critique d'Israël, de son rôle dans le conflit israélo-palestinien, cette nouvelle judéophobie conduit à ce que il y a, pendant les périodes de fortes tensions dans le conflit, des impacts sur les actes qui sont posés en France contre les Juifs.
On repart au standard pour peut-être un dernier appel, parce qu'après j'aimerais qu'on fasse aussi un petit point sur les préconisations du côté de la Ligue des droits de l'homme et de la CNDCH sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Cette fois, c'est Mathieu qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir, merci de cette prise d'appel et je suis très heureux que vous puissiez faire cette émission ce soir. Alors ma question va être très simple. Je suis assez étonné qu'on puisse effectivement constater une augmentation de l'indice de tolérance, alors que parallèlement on observe une consolidation, voire une augmentation du vote d'extrême droite et du Front National sur les derniers sondages pour les élections présidentielles. Voilà, qui me paraît un peu antinomique.
Antinomique, qui veut répondre à Mathieu? On sort un petit peu de votre champ d'action.
Écoutez,
aux uns et aux autres.
L'indice de tolérance, la CNCDH, d'abord n'est qu'à 65%. Je pense quand même qu'il faut insister là-dessus. Ça veut dire que 35% des gens de ce pays, plus du tiers, sont en situation de rejet, de préjugé à l'égard d'une ou plusieurs catégories de population. Car en fait, il ne faut pas s'y tromper, on est toujours le juif, l'arabe, le rhum de quelqu'un. Dès qu'on commence là, on ne s'arrête plus. Deuxièmement, vous avez un certain nombre de gens qui vont voter extrême droite, Front National pour ne pas le nommer, et qui en même temps vont être au quotidien avec des gens sans une attitude de préjugé. Ça n'est pas nécessairement contradictoire, ce qui ne veut pas dire que le discours institutionnel du Front National, lui, ne soit pas un discours discriminant, un discours ouvertement raciste tout à fait condamnable. Mais en même temps, assimiler la totalité des gens qui votent à l'extrême droite à des racistes généraux, un racisme généralisé, etc., ça ne rend certainement pas compte de la complexité du problème.
Une question peut-être sur le racisme anti-Rome, Magali Lafourcade, dont vous faites évidemment état dans votre rapport. Vous dites d'une part que c'est effectivement le groupe peut-être le plus rejeté, mais en même temps vous faites état d'un certain nombre de progrès.
Oui, alors en fait, on considère que c'est le groupe le plus rejeté, mais aussi c'est le groupe le plus mal connu, puisque les gens confondent Roms, gens du voyage, nomades, sédentarisés, et en réalité, ce qu'on a pu remarquer, puisqu'on a aussi fait une analyse de l'effet loupe des médias et de l'effet stigmatisant des discours politiques, on l'a déjà mentionné au cours de l'émission, c'est que finalement une communauté, moins on en parle, mieux elle se porte dans l'esprit des concitoyens. Et donc du coup, quand il y a eu des émissions sur des Roms de la classe moyenne qui sont tout à fait intégrés, normaux comme nous tous, voilà, et eh bien ça a pu contribuer à une image positive, et le fait de moins focaliser sur les préjugés classiques à l'égard des Roms, qui sont associés à l'insalubrité, à la pauvreté, à la mendicité et même à l'immoralité, hein, c'est ce qui ressort de l'enquête. Les préjugés sont très très violents à l'égard des Roms, et eh bien moins on focalise là-dessus, et plus finalement on s'éloigne de ces préjugés. Donc ça veut dire que il y a vraiment une responsabilité des médias et des hommes politiques en la matière, et parce que les personnes qui sont Roms sont très très peu nombreux dans notre pays, ils ne posent en réalité pas vraiment de difficultés, il faut bien être clair.
Michel Tubiana.
De manière générale, je crois que je partage totalement ce qui a été dit sur les Roms, mais de manière générale, si je dois envisager des préconisations, je dirais qu'on doit les envisager sur une échelle de temps. Il y a le long terme. Le long terme, c'est déjà mettre un terme à ces situations de ghetto qui sont absolument intolérables. Quand vous avez des classes où il y a qui sont monocolores, si j'ose dire, quelle que soit la couleur, eh ben il y a quelque chose qui ne rend pas compte de la diversité de ce pays et qui conduit à l'enfermement culturel, géographique, social et avec tout ce
qui. Faut de la mixité sociale.
Comment ?
Faut de la mixité en général, sociale et autres.
Faut de la mixité sociale en général, mais sur ce point-là, toutes les politiques de la ville ont été des échecs depuis des décennies. Le deuxième élément, c'est bien évidemment que dans cette politique de la ville, il y a un facteur déterminant qui est l'école. Et aujourd'hui, l'école ne remplit pas sa fonction. C'était pas mettre en cause des enseignants que de dire cela. Mais quand on a 30 élèves par classe, dans des situations de ghetto, etc., etc., bah, ça ne peut pas marcher. Et l'école ne peut plus jouer le rôle qu'elle a joué au début du XXe siècle d'ascenseur social. Et troisièmement, il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui. C'est que bon nombre de nos responsables politiques cessent de stigmatiser une partie de la population, cessent d'exploiter un fonds de commerce sur ce terrain-là, qui est totalement délétère pour le fonctionnement de la démocratie, pour la République et pour simplement le fait de vivre ensemble. Qu'enfin ils comprennent et disent publiquement qu'on vit beaucoup mieux avec l'autre qu'en essayant de détruire l'autre.
Magali Lafourcade, le mot de la fin pour vous. Avec vos préconisations à la CNDCH, il y en a beaucoup.
Alors il y en a énormément, donc je ne vais pas toutes les... Bien évidemment, l'éducation est essentielle, l'éducation à tous les âges de la vie, pour pouvoir être plus ouvert à l'autre.
Y compris pour les adultes.
Hein, y compris pour les adultes, y compris pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et nous souhaitons surtout attirer l'attention sur un phénomène qui est très peu analysé et par les associations qui vont pourtant travail remarquable sur le terrain et surtout par les politiques, c'est le problème de l'intersectionnalité. C'est quand vous vous trouvez au croisement de plusieurs vulnérabilités. Alors là, pour pouvoir faire valoir vos droits, c'est quasiment impossible en France. Donc si vous êtes femme, rome ou femme musulmane d'origine maghrébine et qu'en plus vous habitez un quartier qui est stigmatisant, pour pouvoir faire valoir, pour pouvoir ne pas être discriminé, c'est extrêmement difficile dans notre pays.
Un tout dernier mot, Michel Tubiana, sur la judiciarisation de tout ça. On n'a que 30 secondes, mais c'est important de porter plainte, c'est important.
C'est important de porter plainte, c'est important que la justice réponde, c'est important que le premier interlocuteur, la police, réponde. Et en même temps, vous savez, la loi contre le racisme date en France de 1972. Si la loi suffisait, ça se saurait.
Un grand merci à vous et je signale une exposition qui a débuté aujourd'hui au Musée de l'Homme à Paris.
Et qui s'appuie sur le rapport.
Voilà, nous très, et les autres, des préjugés au racisme, on a entendu une de ses responsables ce matin sur l'antenne d'Inter. C'est jusqu'au 8 janvier prochain pour déconstruire justement tous ces préjugés. Un grand merci à vous Magali Lafourcade de la CNDCH. Merci à Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. C'est la fin de ce téléphone sonne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Irène Ménahem, Jérémy Younes, à la réalisation ce soir, Hélène Bisio, à la technique, Gilles Gaillard, Philippe Duclos, Grégory Wallon. Merci aussi aux jeunes standardistes de l'émission et à vous tous qui nous avez appelés.